bonjour à tous. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Italie médiévale.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Je vous parle d'un temps que les moins de 800 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où les prix se négociaient sur les marchés de Venise et de Florence. Au XIIe et au XIIIe siècle, le commerce se développe dans tout l'Occident chrétien. Un essor qui s'accompagne d'un intérêt croissant des juristes et des théologiens pour la question du juste prix. Les penseurs scolastiques réfléchissent à la valeur sociale de l'échange. Mais peu à peu, ce sont les grands marchands qui fixent les tarifs. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du prix au tribunal de Dieu en compagnie de Clément Lenoble en duplex de Turin, historien chargé de recherche au CNRS et co-directeur de cet ouvrage « Les infortunes du juste prix, marché, justice sociale et bien commun de l'Antiquité à nos jours » paru aux éditions du Bordelot, en compagnie également de Jean-François Chauvard, professeur d'histoire moderne à l'université Paris-1-Sorbonne, auteur lui de « Lier et délier la propriété » aux éditions École française de Rome. À 14h50, ce sera l'heure du journal de l'écho, présenté par Xavier Martinet. Clément Lenoble et Jean-François Chauvard, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de La Passion du Christ, le film de Mel Gibson sorti sur les écrans en 2004. Judas, l'un des disciples de Jésus, vient rendre au grand prêtre l'argent qu'il a reçu en échange de sa trahison.
Laissez-le passer, il n'est pas dangereux.
Relâche Jésus. Reprends l'argent. Le voilà. J'ai péché. J'ai livré un sang innocent. Reprends ton argent, je n'en veux pas.
Si tu penses avoir livré un sang innocent, c'est ton problème. Prends ton argent et va-t'en. Va-t'en.
Prends ton argent et va-t'en. Clément Lenoble, en quoi la trahison de Judas, qui aurait vendu le Christ pour 30 deniers, est-elle fondatrice dans la réflexion médiévale sur le prix ?
Alors oui, c'est cette trahison de Judas est abondamment reprise et commentée depuis l'Antiquité tardive et jusqu'au début de l'époque moderne par les théologiens et les canonistes qui s'intéressent à la question des prix notamment, mais parce qu'elle pose des problèmes et des questions vastes qui les intéressent particulièrement. C'est en effet un des lieux centraux des élaborations lexicales et idéologiques du christianisme pendant cette période, où se concentre à la fois la réflexion sur le salut éternel, la foi, la valeur des choses et l'estimation du prix, en même temps que l'incapacité des juifs, du point de vue des chrétiens, de reconnaître la valeur du Christ et la vérité.
C'est l'idée que Judas a vendu le Christ pour un prix dérisoire et que ça pose du coup cette question essentielle de ce que peut être le juste prix.
De ce que peut être le juste prix et en même temps de la difficulté de le connaître notamment dans ce cas précis, lorsqu'il s'agit d'une valeur qui est inquantifiable, qui est inappréciable, et Judas n'a pas su reconnaître cette valeur inquantifiable.
C'est la pensée scolastique qui va s'emparer de cette question du prix. On va en parler tout au long de cette émission. Mais alors d'abord, comment est-ce qu'on peut définir la pensée scolastique ? Qu'est-ce qui la caractérise, Clément Lenoble ?
Ce qui la caractérise, c'est-à-dire au sujet du juste prix en particulier.
Plus généralement ?
Alors plus généralement, pour ce qui est, alors c'est une pensée qui est une pensée de type casuistique qui aborde des sujets théologiques ou juridiques et qui, pour ce qui concerne la matière économique, se développe dans le cadre de questions codlibétiques ou de traités sur les contrats, de traités qui peuvent aussi être des manuels de confesseurs. Et donc, c'est une pensée qui est en prise avec la réalité, avec l'expérience concrète des fidèles, qui tente d'apporter des réponses à des problèmes de la vie quotidienne, qui mettent en jeu le salut de l'âme des fidèles.
Mais il s'agit d'une appréhension morale des faits économiques ?
Oui, c'est une appréhension morale des faits économiques, bien entendu, dans la mesure où c'est un travail de, d'abord de description des pratiques économiques, de mise en forme, de qualification de ces pratiques avec un lexique spécifique qui fait entrer les pratiques économiques dans le domaine de la morale. Soit parce que jusqu'à présent, la morale ne s'était pas occupée de ces pratiques, soit parce que ce sont des pratiques nouvelles qui demandent que la morale s'en saisisse.
Mais alors ces pratiques, justement, Clément Lenoble, et notamment ces rapports marchands qui sont en train de se développer, comment sont-ils analysés, comment sont-ils observés par les théologiens ?
Alors les théologiens disent qu'ils l'observent, Père de Jean-Olivier par exemple dit qu'il l'observe à partir de l'expérience, c'est-à-dire des pratiques courantes qu'il peut observer ou qui peuvent lui être rapportées.
Et par exemple, on a le cas du théologien Robert de Courson au début du XIIIe siècle qui estime que le prix doit prendre en compte tous ceux qui ont participé à la production et à la vente d'une marchandise. C'est l'une des premières réflexions sur le prix.
Oui, alors on a des réflexions sur le prix antérieures à celles de Robert de Courson, mais c'est vrai que Robert de Courson a été souvent cité parce qu'il formule assez clairement cette idée que le prix d'une chose correspond au coût de sa production et au travail de ceux qui l'ont produit, acheminé, estimé, mis en vente, etc.
Ce que l'on comprend bien, Clément Lenoble, c'est que la pensée scolastique analyse les lois de l'offre et de la demande, même si ces termes n'existaient pas.
Ces termes n'existaient pas. Elle analyse en quelque sorte les lois de l'offre et de la demande, si vous voulez, sans la formuler et sans la connaître.
Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question l'idée selon laquelle c'est à cause de la morale chrétienne que le capitalisme n'a pas pu se développer au Moyen-Âge ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une première forme d'observation d'un premier capitalisme par ces théologiens, Clément Lenoble ?
Alors, ce que les théologiens observent, ce sont des pratiques quotidiennes et ils ne formulent pas une théorie générale, si vous voulez, ni une observation générale. C'est vrai qu'on a pu leur reprocher d'avoir empêché ou freiné l'essor du capitalisme. Ce sont des historiens de la pensée économique du 19e et du 20e siècle qui parfois ont interprété leurs travaux, leurs écrits de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on reprochait à la société médiévale d'être une société pré-capitaliste, primitive, limitée par les structures de la production, le contrôle des guildes, des corporations, la morale ecclésiastique, des croyances superstitieuses, etc. On a aussi des historiens de la pensée économique qui ont vu de façon tout aussi problématique chez les scolastiques l'invention de la théorie générale de l'équilibre, de la formation des prix par la loi de l'offre et de la demande sur un marché concurrentiel. C'est pas vraiment ça, parce que les scolastiques ne considéraient pas que le marché produisait les prix. Le marché était le lieu où on pouvait constater les prix. Et ils n'avaient pas du tout une conception concurrentielle de l'économie.
Alors on va y venir à ce prix constaté selon les scolastiques. Mais d'abord, Jean-François Chauvard, vous vouliez réagir ?
Oui, j'ajouterais deux points. D'abord, dans ce système de pensée que s'est développé du XIIe jusqu'au XVIIIe siècle l'économie européenne, et c'est dans le monde italien de la fin du Moyen-Âge que s'est développé le capitalisme marchand, sans que ce cadre de pensée, même lorsqu'il condamnait l'usure, ait empêché un développement économique spectaculaire.
Alors même qu'effectivement c'était le lieu où cette pensée économique était en train de naître. Alors justement, les théologiens vont développer le concept d'estimation commune. Alors c'est un concept sur lequel il va falloir que l'on s'arrête un moment. C'est l'idée, Clément Lenoble, que le prix doit résulter d'un consensus social sans qu'il soit explicitement formulé ?
Alors, d'un consensus social, oui, dans une certaine mesure, l'estimation commune, quelque chose qui renvoie au prix courant sur le marché, qui est un prix de référence. On trouve cette expression, le prix du marché comme prix de référence, déjà dans des textes du 11e, 12e siècle. Et puis l'expression estimation commune qui arrive plutôt dans la deuxième moitié du 13e siècle et qui devient très courante chez les scolastiques qui s'intéressent au prix. Cette estimation commune, alors ça n'est pas c'est l'opinion courante des gens, des membres de la communauté, et c'est en réalité une estimation incertaine et variable qui est effectuée par tous les acteurs du marché. Tous ceux qui sont autorisés à opérer sur le marché, donc les marchands, les acheteurs, mais aussi les institutions publiques.
Il faut préciser que d'une façon assez globale, il n'y a pas de prix fixé par les autorités, Jean-François Chauvard, sauf exception.
Si, le prix peut être fixé par les autorités étatiques ou communales, en particulier le prix du blé, lorsque les circonstances, la conjoncture l'imposent. Et parmi les différents acteurs qui sont amenés à faire cette estimation commune, il y a effectivement les marchands, les autorités publiques par la fixation des prix, et aussi des experts qui ont une compétence particulière pour évaluer la valeur intrinsèque d'un bien, ou qui peuvent évaluer l'écart de prix juste, notamment pour des biens rares.
Parmi les penseurs scolastiques, on peut s'arrêter un instant sur Albert le Grand, théologien dominicain du XIIIe siècle. Je vous propose d'écouter son portrait dressé par le philosophe Gaston Bachelard.
Mettre à la portée des latins toute la physique, la métaphysique et les mathématiques, c'est-à-dire toute la science accumulée jusqu'alors par les Grecs et leurs élèves arabes ou juifs, telle est l'œuvre immense d'Albert le Grand. Aristote est alors son maître. En tous mes écrits philosophiques, écrit Albert le Grand, je n'ai rien dit qui m'appartienne, mais j'ai exposé aussi fidèlement que je l'ai pu les opinions des péripatéticiens. En fait, la pénétration mutuelle du dogme et de la doctrine philosophique est de plus en plus poussée. Avec Albert le Grand, avec saint Thomas d'Aquin surtout, un rationaliste s'installe et qui se développe à la fois dans la théologie et dans la philosophie. Étienne Gilson dit fort bien, à partir du XIIIe siècle, la solidarité entre l'aristotélisme et le christianisme sera telle que la philosophie péripatéticienne va, pour ainsi dire, participer à la stabilité et à l'immutabilité du dogme.
Clément Lenoble, que peut-on dire de l'apport d'Albert le Grand à cette réflexion sur le prix ?
Alors, c'est un apport très important que Sylvain Piron, par exemple, a qualifié de vraiment fondateur pour la science économique moderne. D'abord, s'agissant de l'estimation commune, il l'a définie comme l'estimation du marché. C'est-à-dire que pour lui, le juste prix est ce que peut valoir, selon l'estimation du marché, une chose au moment particulier où elle est vendue. Et ensuite, dans son commentaire à l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire à l'œuvre d'Aristote à laquelle on a donné pour titre l'éthique à Nicomaque, il introduit le terme de valeur, qui n'était que très peu utilisé jusqu'alors dans ce contexte en rapport avec la question du prix des choses.
Et c'est intéressant de souligner que les théologiens du XIIIe siècle redécouvrent les textes antiques, et notamment Aristote.
Oui, alors il y a beaucoup de textes qu'ils connaissaient déjà, mais il y a aussi des nouvelles des traductions, et notamment une partie de ce qu'on appelle alors la logique nouvelle et l'éthique à Nicomaque, qui sont traduites au cours du XIIIe siècle et commentées par les théologiens. Albert le Grand est aussi connu pour être le maître de Thomas d'Aquin, qui est dominicain comme lui, et qui est aussi considéré comme un des grands artisans de la conciliation, entre guillemets, entre christianisme et pensée aristotélicienne.
On va entendre tout à l'heure un extrait d'un ouvrage de Thomas d'Aquin, mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le même temps, les autorités publiques s'appuie sur le droit romain. En cas de conflit, c'est au juge de statuer. Ça, c'est ce qu'explique Pierre de Jean Olivier, qui est un théologien du XIIIe siècle, lui aussi, dans son ouvrage De Contractibus. On en écoute un extrait.
Il faut savoir qu'une telle pesée de la valeur des choses d'usage ne peut que rarement, voire jamais, être effectuée par nous, si ce n'est par une opinion conjecturale ou probable, et cela non pas de façon déterminée ou selon un calcul et une mesure indivisibles en degrés, mais au sein d'une certaine latitude appropriée au sujet de laquelle les opinions et jugements humains se rapportent différemment quant à son estimation. Elle comporte ainsi différents degrés, peu de certitudes et de nombreuses ambiguïtés, conformément au mode des savoirs d'opinion, quoique parfois plus et parfois moins. Cela provient de l'incertitude de l'estimation humaine. Lorsqu'elle tente d'estimer de manière parfaitement juste les prix qui doivent être établis et de discerner précisément l'excès et le défaut du juste prix.
Clément Lenoble, pour Pierre de Jean Olivier, c'est donc le juge qui est le garant du juste prix à cause de cette incertitude de l'estimation humaine.
Alors oui, l'estimation humaine est incertaine. Pierre de Jean Olivier le formule ainsi après d'autres. Le terme estimatio au Moyen-Âge désigne à la fois l'opération de la mesure, le résultat de cette opération et une opinion incertaine, un jugement. Donc le terme estimatio est un peu un double registre et assez ambigu. Et du coup, les scolastiques commentent et travaillent sur cette ambiguïté de l'estimation et sur sa difficulté, sur son incertitude.
Et quel est le rôle du juge et du droit romain dans cette estimation ?
Alors le juge intervient, selon Olivier, au cas où se produit un litige. C'est-à-dire que Olivier précise peu de temps après, le passage qu'on vient d'entendre, que si un prix est injuste, mais que la personne lésée l'a accepté en connaissance de cause, alors le prix, au fond, est juste et le contrat n'a pas à être cassé. Mais le juge apparaît de toute façon comme l'un des garants du juste prix. Alors ça vient du droit romain, hein, où en fait la théorie juridique de la formation de la valeur à Rome réside dans, non pas dans la matière du contrat et du marché, mais dans celle des litiges. Et l'estimation commune dans le droit romain, c'est la sentence d'un juge, en fait.
Et donc on a des penseurs scolastiques qui tentent de théoriser ce que serait un prix excessif.
Alors oui, ils tentent de théoriser, pas vraiment, ça reste toujours assez flou en fait. On ne sait jamais à quel moment le prix devient vraiment excessif. Le droit, alors il s'appuie sur le droit romain qui prévoit que le prix puisse varier de plus ou moins 50% par rapport au prix courant du marché. Donc ça leur donne une limite juridique, mais à l'intérieur de cette limite juridique qu'ils qualifient de latitude, voire de grande latitude, les prix peuvent varier tout en restant juste. Donc ça laisse une marge de plus ou moins 50% pour cette variation. Et Olivier dit même qu'au fond, même si le prix excédait un petit peu cette limite des 50%, il ne serait pas forcément injuste.
Alors ça pose la question, Clément Lenoble, de la place que prend le marché au Moyen-Âge et du responsable de l'estimation de ce prix. Est-ce que ça doit être la communauté? Est-ce que ça doit être les autorités? Est-ce qu'il faut réfléchir à cette question du marché de cette façon-là, Jean-François Chauvard, et avec notamment cette idée que certains biens échappent à ce marché?
Alors je remonterai à l'époque romaine sur ce point, puisque Yann Thomas a montré que tous les biens n'étaient pas estimables. N'étaient pas estimables les biens sacrés, les biens publics, les temples, les enceintes. Ils étaient inappropriables et donc inestimables. Les autres biens, au contraire, parce qu'ils étaient appropriables et estimables, dessinaient la sphère marchande. Alors à l'époque qui est la mienne, l'époque moderne, qui sur bien des points prolonge l'époque médiévale, il n'y a pas de rupture franche, y compris dans la pensée scolastique. Il y a même au XVIe siècle un renouveau de la pensée scolastique qui prend le nom de seconde scolastique en Espagne en particulier, mais aussi en Italie avec la grande figure du cardinal De Luca au XVIIe siècle. Donc quels sont les biens qui seraient hors marché à l'époque moderne? Ce sont par exemple des biens de famille qui ont été mis dans un fidéicommis, c'est-à-dire une fondation testamentaire qui interdisait l'aliénation de ces biens et qui définissait la ligne de succession.
Comment ça marchait concrètement, ces fidéicommis? À quoi est-ce que ça servait?
Alors, ces dispositifs servaient à conserver la fortune au fil des générations. Ils s'expliquent par le changement aussi d'activité économique des noblesses italiennes, pour l'essentiel originaires du monde marchand, dans les villes d'Italie du Nord, entre le 15e et le 16e siècle, abandon de la marchandise pour la terre, qu'il s'agit de conserver. Et puis cela s'appuie aussi sur une conception de la famille lignagère. Bartol, juriste médiéval, associait la famille à la substance. Familia est substantia, l'essence de la famille étant les biens qu'il apporte. Donc dans un fidéicommis, l'axe, ce sont les biens et les personnes occupent de génération en génération une place, mais ne sont jamais véritablement propriétaires, mais seulement usufruitières le temps de leur vie de ces biens.
C'est pour cela qu'on estime que ces biens, souvent immobiliers, sont placés sous la tutelle indirecte des autorités. C'est le cas à Venise depuis le XIIIe siècle.
Ces biens sont placés effectivement sous la tutelle des autorités publiques qui essaient à tout prix de les protéger, puisqu'ils sont aussi le garant de la stabilité économique et politique. Ces biens peuvent malgré tout sortir des fidéicommis. Alors, c'est souvent un voyage sans retour, mais quelques biens peuvent en sortir quand ils sont en ruine et donc portent atteinte à l'intégrité du fidéicommis, ou lorsque l'usufruitier demande une permutation entre les biens. Et là se pose la question de l'estimation de ces biens, puisqu'ils
au moment où ils réintègrent le marché,
ne sont pas allés sur le marché, donc ce sont des experts qui viennent les évaluer, souvent par un calcul pour les biens immobiliers par capitalisation de la rente. On part du loyer et puis on applique un taux qui est le taux commun, donc on retrouve celui du juste prix, là, du juste taux, qui est autour de 4 à 5% pour calculer la valeur du bien. Il y a souvent des permutations entre un bien libre, disponible, et un bien soumis à fidéicommis. Mais il faut toujours une majoration en faveur du fidéicommis, puisque la permutation doit être faite pour son utilité, selon le terme de l'époque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Une majoration de 30% de la valeur. Donc vous imaginez que les experts sont là pour établir la péréquation monétaire entre le bien qui sort et le bien qui entre.
Et toujours dans cette époque moderne, à Rome, au XVIIe siècle, Jean-François Chauvard, l'autorité papale va aussi exercer un contrôle, mais cette fois sur le prix du pain.
Oui, alors ça me donne l'occasion d'ajouter un point à ce qui a pu être dit jusqu'ici. Dans l'héritage d'Aristote, il y a aussi une double conception de la justice. La justice commutative et la justice distributive. La justice commutative repose sur une proportion arithmétique entre les personnes et les biens échangés. C'est celle qui commande les échanges marchands, qui commandait l'économie naturelle du troc et puis l'économie monétaire quand la monnaie était là pour établir une équivalence. La justice distributive, elle est là, elle a une dimension géométrique et elle est là pour tenir compte de la place de la personne dans l'ensemble de la société. C'est elle qui détermine la distribution des grâces, des faveurs et des richesses. Or, nous sommes dans une société hiérarchique, c'est vrai au Moyen-Âge comme à l'époque moderne, où la position de chacun est différente en droit. Donc, on donne proportionnellement à la position occupée par chacun selon le mérite qui est celui de son statut. L'exemple du marché romain, et j'y viens, l'explicite. Au début du XVIe siècle, le pouvoir pontifical remet à plat la distribution du pain à Rome, et vous savez combien c'est un enjeu important pour la stabilité sociale, en confiant l'organisation du système à la préfecture de l'Annone. Et ce système se dédouble en deux sous-systèmes. Sur le Campo dei Fiori, au centre de Rome, les petits propriétaires du Latium, comme l'a très bien montré Monica Martina dans son livre, les petits propriétaires du Latium venaient vendre directement aux consommateurs leur blé à un prix qui était inférieur à celui du marché. Ailleurs dans la ville, dans des entrepôts, de grands propriétaires, ecclésiastiques ou laïcs, vendaient aux boulangers ou aux pâtissiers le blé, souvent à un prix supérieur à celui du marché. Vous avez là deux exemples de l'articulation entre la justice commutative et de la justice distributive. Compte tenu de la diversité des vendeurs, on ne peut pas mettre tout ce beau monde sur la même place de marché. Donc on applique d'abord la justice distributive en séparant des marchés qui ne communiquent pas entre eux, mais qui permettent de tenir compte de la position de chacun.
Et c'est un double système qui permet d'assurer cette stabilité sociale ?
Oui, on peut le dire, parce que le but d'un prix, c'est de réduire au maximum, en quelque sorte, la distorsion qu'il peut y avoir entre l'avantage de l'un et l'inconvénient de l'autre. Il faut que tout le monde trouve réciprocité dans cet échange, ce qui est largement le cas. La fabrique de Saint-Pierre ou l'hôpital de Santo Spirito, le grand propriétaire du Latium, vendent à un prix plus élevé. Mais c'est la chambre apostolique qui va acheter ce blé à un prix au-dessus du marché.
Clément Lenoble, que vous inspire ce double système et aussi cette distinction entre justice distributive et justice commutative ?
Alors, on observe les mêmes choses, les mêmes pratiques pendant les siècles précédents. C'est-à-dire qu'on a aussi des marchés, on peut avoir des marchés différents. Par exemple, dans les Pyrénées, on a deux marchés du fer dans certaines zones à Arles-sur-Tech, en fonction des acheteurs et des producteurs qui opèrent, et les prix sont différents sur ces deux marchés. Parmi les critères que les scolastiques font entrer en compte dans l'estimation du prix et l'estimation du juste prix, on trouve des critères qui font intervenir cette notion de justice distributive, c'est-à-dire des critères qui introduisent de l'inégalité dans l'échange pour l'équilibrer. C'est-à-dire qu'on part du principe que, puisque les deux personnes qui échangent entre elles sont inégales, alors il faut équilibrer en introduisant de l'inégalité. Ça les conduit d'abord à formuler cette idée de latitude et à analyser dans ces termes la variation des prix sur les marchés et à considérer que le statut du vendeur et de l'acheteur importe dans le prix de la marchandise qu'ils échangent.
Et la prise en compte de ces inégalités peut nous intéresser encore aujourd'hui pour les débats actuels autour de la question du prix. On va continuer à parler de ce prix au Moyen-Âge dans un instant. Mmh. Love Love de Clogs avec Shara Worden sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, les historiens Clément Lenoble et Jean-François Chauvard sont toujours avec nous pour parler du juste prix au Moyen-Âge. Alors on a vu que c'était une question qui intéressait les penseurs scolastiques et de là découle une réflexion sur les salaires. Qu'est-ce qu'un salaire juste? C'est la question qui est soulevée par les théologiens Clément Lenoble.
La réflexion sur le prix et la valeur des choses se fait en lien aussi avec des réflexions sur le salaire. Alors, il faut savoir que la notion de salaire au Moyen-Âge est assez compliquée, difficile à saisir. Et il ne faut pas entendre par salaire ce qu'on entendrait forcément aujourd'hui. Il n'y a pas de marché du travail. Et une partie des rémunérations se fait en nature. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle le salaire est difficile à saisir. Il peut être fait, le travail peut être payé à la tâche, peut être payé au temps. Enfin, il y a différentes. On trouve tous les cas de figure. Mais pour ce qui est de la réflexion des scolastiques sur ces problèmes, ce que dit par exemple Pierre de Jean Olivier, c'est que la rémunération du travail se fait en fonction du statut des personnes et de leurs besoins, sachant que en fonction du statut, les besoins diffèrent. Donc, il en arrive à la conclusion que un pauvre n'a pas les mêmes besoins qu'un riche et n'a pas besoin des mêmes choses dans la même mesure. Un architecte, par exemple, a des compétences, des savoirs et une utilité qui font qu'il mérite un salaire supérieur à un ouvrier, par exemple.
Et pour garantir ce salaire qui serait juste, il faut que les autorités publiques jouent un rôle de régulation?
Les scolastiques ne prônent pas particulièrement la régulation par les autorités. Lorsqu'il s'agit des prix et de l'estimation, ils ont plutôt tendance à dire qu'il est impossible de fixer un prix une bonne fois pour toutes. Donc ils recommanderaient plutôt de ne pas le faire et ils laissent plutôt la place à une estimation souple et à l'élasticité de la latitude des prix, de la variation des prix.
Parce qu'il y a le statut social qui joue dans le prix, mais aussi la parenté, Clément Lenoble, qui joue un rôle important dans le niveau des prix et des salaires.
Alors, la parenté, oui, et aussi, de manière générale, la confiance et la réputation des gens. Ce qui entre en jeu dans des relations à l'intérieur de la parenté. C'est-à-dire que lorsque l'acquéreur a particulièrement confiance dans le vendeur, cela justifie que le prix augmente.
Mais en même temps, il va y avoir de moins en moins de relations de parenté dans le travail avec l'essor du commerce, des échanges qui se font à plus longue distance. Alors comment cela va faire évoluer la question du juste prix du travail ?
Du juste prix du travail et des choses, parce qu'au fond, les scolastiques s'intéressent surtout au prix des choses et de façon un peu plus accidentelle, disons, ils parlent aussi du travail, de la rémunération du travail. Le fait que le commerce s'élargisse et se fasse à des échelles de plus en plus grandes pose effectivement des problèmes, et on trouve dans les écrits des marchands une interrogation constante, sur une inquiétude constante sur la confiance qu'on peut avoir envers ses partenaires commerciaux, et entre en jeu du coup beaucoup la réputation des partenaires, réputation qui est souvent certifiée de façon officielle. C'est une fama, c'est aussi une catégorie juridique. C'est-à-dire que ce sont des marchands reconnus par les autorités publiques pour leurs compétences. On fait aussi des contrats qui permettent aussi de garantir et de protéger les transactions. Chaque marchand, ça on le trouve aussi dans leurs écrits où ils parlent de leur profession, nourrit sa bonne réputation par une pratique vertueuse, par l'exercice de la piété, de la charité, par le fait d'aller régulièrement à l'église, à la messe, entendre la messe. Alors évidemment, on pourrait comprendre ça un peu comme une instrumentalisation de la piété et de la dévotion. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt en fait le signe justement que le bon marchand chrétien est un bon fidèle et le bon fidèle est un bon marchand.
Jean-François Chauvin.
Oui, je voudrais revenir un instant sur le juste salaire, parce que c'est un bon exemple de l'articulation entre un univers culturel, des concepts juridiques d'un côté et des pratiques de l'autre. En vous donnant l'exemple du marché du travail et de la fixation du salaire, à Venise, à Murano exactement, dans le secteur de la verrerie, étudié par Francesca Trivelato il y a une vingtaine d'années de cela. Qu'est-ce qu'elle constate ? Alors, c'est un secteur très réglé, avec une corporation, des maîtres, des ouvriers et des apprentis, et un secteur extrêmement spécialisé, qui demande de hautes compétences. Qu'est-ce qu'elle constate ? Elle constate que dans chacun des groupes, maîtres et ouvriers, il y a d'importantes disparités salariales. Et elle constate que des salaires d'ouvriers peuvent être supérieurs à des salaires de maîtres.
Et comment est-ce que cela est justifié ?
Alors, pour revenir à la justice distributive et à la justice commutative, vous voyez quel est le problème, puisque c'est la justice commutative, en fait, qui va fixer le montant du salaire. Quelqu'un a des qualités particulières et va recevoir une rémunération à sa mesure. C'est la raison pour laquelle des ouvriers peuvent avoir un salaire supérieur à celle d'un maître d'un autre atelier, par ailleurs. Mais il y a des statuts. Et celui de maître est supérieur à celui d'ouvrier. Et ces différences doivent être respectées. Et c'est là qu'interviennent des instances judiciaires pour essayer de concilier ces deux dimensions. Le Podesta de Murano, qui était le tribunal de première instance, était saisi lorsqu'il y avait un conflit sur le contrat de travail. Le Conseil des Dix, qui est le tribunal suprême de Venise, qui est le garant de l'ordre social, intervient lorsqu'il n'y a pas le versement, par exemple, d'une allocation chômage à l'ouvrier. Et il intervient également pour essayer de préserver la hiérarchie. Donc, quand il s'agit de faire entrer dans la corporation des étrangers après la peste de 1630, il est très soucieux de veiller aux équilibres internes. Mmh. Donc c'est ainsi que se conjuguent très concrètement ces deux dimensions de la justice dans la fixation des salaires et plus généralement la gestion du monde du travail.
On voit que se pose sans cesse la question d'un appareil institutionnel pour encadrer les prix, Clément Lenoble, parce que ces prix sont capables de beaucoup fluctuer sous l'effet de toute une série de facteurs.
Alors les prix fluctuent et au Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge est marquée par cette très forte variation des prix. Ils sont changeants. La présence institutionnelle pour encadrer, oui, parce que les marchés médiévaux ne sont pas des créations spontanées. Lorsqu'ils sont créés, ils sont créés par une institution qui en fixe les droits et les règles de fonctionnement. Il y a une police du marché, il y a dans les villes italiennes comme à Florence des magistrats qui sont chargés de l'administration du marché. Mais ils ne fixent pas les prix, sauf de façon exceptionnelle, comme l'a dit Jean-François Chauvard tout à l'heure pour l'époque moderne, en cas de famine où on voit ou de cherté, où on voit à Florence, par exemple, que la ville, la commune, se met à vendre du blé sur le marché, ce qui fait baisser les prix du grain sur le marché.
Et alors, on l'a dit, le XIIIe siècle fait face à une augmentation des des échanges, du commerce. Alors dans ce contexte, que devient le prix ? Pour le comprendre, il faut se plonger dans la pensée de Thomas d'Aquin, qui a donc vécu au XIIIe siècle. On écoute un extrait de sa Somme théologique.
Recevoir un intérêt pour de l'argent prêté est de soi injuste, car c'est faire payer ce qui n'existe pas, ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice. Pour s'en convaincre, il faut se rappeler que l'usage de certains objets se confond avec leur consommation. Ainsi, nous consommons le vin pour notre boisson et le blé pour notre nourriture. Dans les échanges de cette nature, on ne devra donc pas compter l'usage de l'objet à part de sa réalité même, mais du fait même que l'on en concède l'usage à autrui, on lui concède l'objet. Voilà pourquoi, pour les objets de ce genre, le prêt transfère la propriété. Si donc quelqu'un voulait vendre d'une part du vin et d'autre part son usage, il vendrait deux fois la même chose, ou même vendrait ce qui n'existe pas. Il commettrait donc, évidemment, une injustice. Il est injuste, en soi, de se faire payer pour l'usage de l'argent prêté. C'est en quoi consiste l'usure, usura. Les lois humaines laissent certains péchés impunis, à cause de l'imperfection des hommes, car elles priveraient la société de nombreux avantages si elles réprimaient rigoureusement tous les péchés en y appliquant des peines. C'est pourquoi la loi humaine tolère le prêt à intérêt, non qu'elle l'estime conforme à la justice, mais pour ne pas nuire au plus grand nombre.
Clément Lenoble, que vous inspire ce texte de Thomas d'Aquin, qui est lu par l'acteur Jean Bollery, avec cette condamnation de l'usure qui est considérée comme injuste ?
Alors d'abord qu'il faudrait beaucoup plus du temps qui nous est imparti pour pouvoir le commenter et l'expliquer convenablement.
Vous avez quand même du temps.
Alors à part ça, alors effectivement, on le sait, c'est très connu, les théologiens de la fin du Moyen-Âge condamnent l'usure. Et on traduit souvent usura par prêt à intérêt. Alors c'est assez compliqué parce qu'il ne s'agit pas de toutes les pratiques de prêt à intérêt qui sont condamnées sous ce terme. L'usure intervient essentiellement dans certains types de prêts qui sont des prêts charitables ou des prêts gratuits. Donc en réalité, dans le cadre de ces prêts, mais aussi dans le cadre de tous les prêts en général, le prêt est usuraire tout d'abord si le prêteur désire et exige en retour un intérêt. Il commet un péché d'avarice du fait de ce désir, de cette intention de faire du profit. Si le prêt est fait de façon charitable, si le marchand prend un risque en prêtant cet argent, cet argent qu'il a prêté aurait pu être utilisé dans d'autres opérations pendant la durée du prêt qui lui aurait apporté du profit. Et si, une fois qu'il a touché son intérêt, il réinvestit cet intérêt dans des opérations profitables sur le marché, alors on considère que la rémunération est justifiée et que le prêteur a droit à un profit.
Donc des profits trop élevés ne mènent pas nécessairement au vice et au péché, selon Thomas d'Aquin ?
Alors, des profits trop élevés, si, mais parce que nos scolastiques sont toujours dans la mesure et la modulation, si vous voulez. Donc, quand est-ce que un profit est trop élevé, quand est-ce qu'un prix devient vraiment injuste, c'est très difficile à dire. Cela dépend de la situation, du moment, du contexte, des personnes concernées. Si vous voulez, un autre dominicain avant Thomas d'Aquin, au début du XIIIe siècle, le confesseur Raymond de Peignafort, qui est un juriste, un canoniste, explique que la personne qui prête de l'argent à intérêt est un usurier, alors son prêt est considéré comme de l'usure. Donc en fait, vous voyez, cela pour Raymond Peñafort, cela dépend de la réputation et de la figure du prêteur, en fait, l'usure,
vous avez
plus
cité,
que de l'opération en soi.
Vous avez cité tout à l'heure, Clément Lenoble, cette figure du bon marchand qui émerge. Je voudrais vous faire entendre un dernier extrait.
Ce que tous les citoyens de Florence doivent à Giovanni de Médicis ne saurait se compter ou lui être remboursé en pièces d'or. Notre Seigneur a doté sa famille d'une immense fortune. Et cependant, loin d'agir par avarice, Giovanni a été un homme de conviction. Pour lui, la richesse et la prospérité ne devaient pas être le privilège de quelques-uns, mais au contraire, elles devaient profiter à tous, pour le bien du plus grand nombre. Il était convaincu que le pouvoir ne devait pas servir à enrichir les puissants, mais au contraire, à améliorer le sort des plus faibles.
Un extrait de la série Les Médicis, maître de Florence. On entendait ici le sermon du prêtre après la mort du grand marchand Giovanni de Médicis au début du XVe siècle. Clément Lenoble, que vous inspire cet extrait? Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du XVe siècle, les grands marchands deviennent en quelque sorte les experts capables de cerner le juste prix des choses?
Oui, alors avant le XVe siècle même, c'est l'opinion à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, c'est l'opinion de la plupart de nos auteurs qui réfléchissent à la question des contrats. C'est-à-dire que la difficulté à estimer le juste prix et la grande variabilité des prix, la multitude de critères qui doivent entrer en compte dans l'estimation. Tout cela fait que il vaut mieux confier l'estimation du juste prix à un expert. Et cet expert, disent-ils souvent, c'est un marchand qui connaît les prix dans diverses parties du monde, qui a des qualités reconnues, une bonne réputation, dont la réputation est reconnue par les autorités. Et donc, on doit lui confier, au fond, la charge de dire les prix et d'apprendre aux autres comment on estime le prix des choses.
Et c'est ainsi que ces grands marchands assoient leur pouvoir dans la cité, Jean-François Chauvard?
Ah, il y en a d'autres, il n'y a pas seulement celui-ci, même celui-ci est sans doute secondaire. Mais dans l'exemple qui nous a été donné d'entendre, il était intéressant de mesurer à quel point la libéralité, le don de ces richesses était un devoir. Il s'agissait de redistribuer ce qui avait été aussi reçu, accumulé, et c'était le moyen de justifier ainsi sa richesse. Et les commandes d'œuvres d'art, les dons aux églises, la construction de palais que l'on voit de l'espace public participe de cette libéralité, de cette restitution à la communauté.
Il y a le don, mais il y a aussi le type d'activité que le marchand va pratiquer. Est-ce qu'il n'y a pas des activités marchandes qui sont mieux perçues que d'autres, Jean-François Chauvard? Perçues comme plus ou moins chrétiennes?
Alors tout dépend des marchandises qui peuvent être échangées. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une hiérarchie qui soit extrêmement nette entre des activités qui seraient indignes et d'autres qu'il faudrait.
Mais il faut en tout cas participer à la charité, investir peut-être dans la finance de la ville.
Alors, ce qui est effectivement fondamental, comme acheter avec les fruits de ses affaires des emprunts publics, est effectivement un devoir, puisque c'est rendre à la communauté, encore une fois, ce qu'elle a pu vous offrir. Donc, il y a des investissements qui sont nécessaires de la part de grands marchands, ou du moins de ceux qui ont accumulé de la richesse. Ils ne viennent pas forcément du monde marchand, mais peuvent venir aussi de la noblesse féodale.
Cette figure du bon marchand, on l'aperçoit chez un théologien comme Angelo d'Acquivasso à la fin du XVe siècle, Clément Lenoble.
Oui, on la trouve à partir de la fin du XIIIe siècle, pendant tout le Moyen-Âge, jusque chez Angelo da Chivasso, effectivement. C'est un marchand, en fait, qui... Le bon marchand chrétien, si vous voulez, est un marchand qui fait du profit presque malgré lui, parce qu'il est compétent en affaires, il fait des affaires, et ses affaires sont utiles à la communauté. Elles sont utiles à la communauté parce qu'il approvisionne les marchés, parce qu'il réinvestit ses profits dans diverses opérations utiles, pas seulement charitables, c'est-à-dire pas seulement des opérations qui consistent en l'assistance aux pauvres, mais aussi effectivement le financement public ou simplement le commerce, puisque de plus en plus ces marchands sont considérés quasiment comme des officiers publics du fait qu'ils réalisent des opérations d'approvisionnement utiles à la communauté.
Est-ce que cette quête du juste prix au Moyen-Âge et dans la période moderne dont on a parlé tout au long de cette émission nous permet aujourd'hui de repenser la question du prix aujourd'hui ? Est-ce qu'elle trouve des échos dans l'actualité, Clément Lenoble ? C'est peut-être d'ailleurs pour cela que vous avez co-dirigé ce livre qui comporte énormément d'articles sur l'Antiquité mais aussi sur le Moyen-Âge.
Alors, ce livre, effectivement, qui essaye de voir quelles sont les différentes acceptions du juste prix et de la justice des prix de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, voire au XXIe siècle, avait pour objet de souligner d'abord que ces notions de prix et de juste prix sont des constructions composites, hétérogènes, qui dépendent des sociétés dans lesquelles on les trouve et du moment où on les trouve. Et que ce sont des que à chaque fois le sens varie et change. La plupart des articles qui sont réunis dans ce livre montrent aussi que le prix est un outil de la reproduction de l'ordre du marché et que cette construction, je pense à l'article de Véronique Chankowski sur la Grèce classique et au mien au Moyen-Âge, on voit que cette construction qu'est le prix est un moyen dans les mains des autorités et des grands marchands pour asseoir leur domination et reproduire cette domination.
Des réflexions qui nous inspirent encore aujourd'hui. Et très rapidement, Jean-François Chauval.
Le juste prix, il n'est pas seulement affaire de spécialistes, c'est-à-dire de théologiens, de marchands, d'experts. Il est partagé par tout un chacun. C'est ce que montre très bien Edward Thompson dans ses travaux sur l'économie morale en Angleterre du XVIIIe siècle. Les paysans se révoltent lorsque le prix est trop cher parce qu'ils ont une conscience de ce qu'est le juste prix.
Le prix est donc l'affaire de tous. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
Réunion hier entre le ministère de l'économie et les représentants des entreprises sous pression depuis l'arrivée en France du coronavirus et de nouvelles mesures de soutien annoncées. Alors est-ce qu'elles suffiront à passer le cap ?
En tout cas, certaines PME sont particulièrement touchées. L'événementiel d'abord, le tourisme et l'hôtellerie également avec des pertes d'activité de 20 à 30%. Et puis le secteur logistique et maritime, leur activité ne devrait retourner à la normal que d'ici 2 semaines, dit BPI France. Le gouvernement, lui, avait déjà pris vendredi une série de mesures qu'on pourrait dire classiques, comme au moment des gilets jaunes ou des manifestations contre la réforme des retraites, report de charges et de cotisations et des mesures de chômage partiel. Cette fois, le ministère de l'économie qui appelle à mettre le paquet, met à contribution les institutions financières, donc BPI France et la Banque de France, pour garantir des prêts et les favoriser. Écoutez ce qu'en disait Mathieu Plan. Il est le directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE.
Pour le moment, on voit que les effets sur les secteurs d'économie restent assez limités, enfin en particulier au tourisme, mais qu'au-delà, on n'a pas trop d'effets sur les systèmes de production, si ce n'est sur les chaînes d'approvisionnement d'un certain nombre de secteurs industriels. Typiquement, le temps de faire venir les containers peuvent prendre plusieurs semaines avant d'arriver, donc on n'a pas vu encore tous les effets sur les chaînes d'approvisionnement de ce qui s'est produit en Chine, justement. L'OCDE, c'est essayé à l'exercice, c'est pas entre un demi-point de PIB et 1,5 point de PIB. On voit que déjà le scénario d'un demi-point de PIB semble assez peu probable, car c'était l'hypothèse d'une crise du coronavirus qui était confinée juste à la Chine. On voit qu'il y a quelques leviers activés assez rapidement. Il y a bien sûr la garantie de la BPI sur un certain nombre de crédits de trésorerie. Il y a qu'est-ce que peuvent faire les banques centrales aussi pour faciliter l'accès à un certain nombre de facilités de financement. Là, la grande difficulté, c'est au-delà même de la diffusion du virus, c'est quelle va être la réaction des pouvoirs publics sur le confinement. Et en fait, c'est le confinement qui crée cette chute d'activité, à la fois à travers l'activité de production, la possibilité de se rendre à son lieu de travail, et puis le choc de demande. C'est-à-dire que si les gens sont confinés, il n'y a plus de mobilité, il y a beaucoup moins de transport, il y a beaucoup moins de tourisme, d'activités de loisirs, de restauration, et donc un risque en chaîne comme ça très fort.
Et certains demandent même des actions supplémentaires de la part du gouvernement.
Oui, les Républicains demandent des prêts à taux zéro et la CPME voudrait protéger les pertes des entreprises avec un classement en catastrophe sanitaire comme pour les catastrophes naturelles et puis avec un risque de récession désormais plus probable en zone euro. Ce matin, Bruno Le Maire appelait aussi l'Europe à une relance budgétaire. L'Italie, elle première touchée, a annoncé son plan de relance de 3,6 milliards d'euros. Plus étonnant, le ministre de l'économie allemand, lui aussi, s'est déclaré dimanche prêt à prendre des mesures de relance.
On passe au bref, les marchés financiers aussi attendent des signes de relance, Xavier. Et ça y est, les banques centrales prennent leurs premières décisions, ou pas ?
Oui, puisqu'après la Banque du Japon, c'est la Fed, la banque américaine, qui a décidé de baisser son taux directeur d'un demi-point. De quoi donner un peu d'air au crédit bancaire. Mais c'est surtout une décision très surprenante, d'abord par sa rapidité. C'est la première fois qu'elle intervient en dehors de ses réunions habituelles depuis la chute de Lehman Brothers. Et surtout parce que la réponse mondiale coordonnée et concrète de toutes les banques centrales qui était attendu n'a pas eu lieu. Les Européens se sont contentés d'appels téléphoniques. Ainsi, malgré l'optimisme affiché du président de la Fed hier, Wall Street a perdu près de 3%.
Et enfin, c'est inédit, Google démarche les éditeurs de presse français pour leur proposer une rémunération et ce n'est pas sans arrière-pensée.
En tout cas, pas sans arrière-plan, c'est une démarche inédite. Oui, entre 90 000 et 900 000 euros par an pour que les articles de presse puissent être présents sur un onglet spécial information que Google dit vouloir tester, mais une démarche politiquement ambiguë, a dit le patron du Figaro, l'un des groupes français contactés, puisqu'elle intervient dans un contexte où Google est déjà en litige avec l'Union européenne sur la directive qu'on appelle des droits voisins, qui permet précisément à la presse de se faire rémunérer la diffusion de ses articles par l'opérateur Internet. C'est ce que refuse Google. Alors, vrai revirement ou tentative de contourner la directive, Facebook, lui, du moins, semble s'y être plié.
The Wall du Niçois Jill is Lucky. Merci beaucoup Clément Lenoble et Jean-François Chauvard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également aux techniciens de la RAI, la radio publique italienne à Turin. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Alain de Rocourt. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. Demain, on se demandera s'il est possible de donner un prix à la nature. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.